Bonjour à tous et bienvenue dans le club. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, que la musique, c'est le jour, c'est le grand jour, le jour du tirage des huitièmes de Ligue des Champions. Donc le sort sera-t-il favorable pour nos deux équipes françaises, à savoir le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, qui se sont toutes les deux qualifiées. Donc je suis entouré de mon équipe, avec toute ma fille de l'équipe, donc Gianni, salut, qui est à la régie aujourd'hui d'ailleurs.
Salut les loulous.
Salut Quentin.
Salut, salut.
Et salut Emric.
Salut.
Donc, est-ce que vous êtes chaud pour ce tirage? Donc je précise qu'on a le tirage là vraiment en direct.
On l'a en direct. Il y a l'abonnement RMC Sport. Hein.
Voilà, là on a investi.
Le troisième lieu, ça paye.
Le troisième lieu a investi dans RMC Sport. Et donc ce sera notre fil rouge tout au long de l'émission. Mais d'abord, on va revenir sur les performances donc, de l'Olympique Lyonnais, qui a fait nul, on le rappelle, à Kiev dans des conditions assez particulières contre le Shakhtar Donetsk. Et la victoire du Paris Saint-Germain, 4-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, donc à Belgrade. Donc déjà, est-ce que chacun a vu les matchs?
Oui.
Bien sûr.
Les deux?
Ouais. Oui.
Ok, donc je propose qu'on commence...
Après, je t'avoue que c'était un dilemme entre le match du PSG et Liverpool-Naples, mais dans un souci de sérieux journalistique, j'ai regardé le PSG.
Dans un souci de patriotisme. Donc on va commencer par évoquer le PSG déjà.
Ou les boules, elles sont belles les boules. Hein.
Donc on va commencer par évoquer le Paris Saint-Germain donc qui a gagné au Maracana 4-1 contre une faible équipe de Belgrade. Donc toi Quentin, le supporter parisien, qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe?
Alors déjà, petit coup de chapeau au public de Belgrade. Franchement, le stade magnifique, l'ambiance magnifique.
Le couloir de la mort aussi.
Magnifique aussi.
On leur avait promis l'enfer d'ailleurs. Hein.
Justement, bah voilà, c'est la semaine dernière, je crois qu'il y en avait dans cette émission qui disait que ça allait être l'enfer pour le Paris Saint-Germain, même dans le jeu et tout, ça allait pas être une masse à faire.
Après, je pense que quand on parlait d'enfer, les gens parlaient surtout de l'ambiance.
En tout cas, moi, je parlais surtout de l'ambiance. Ouais, en tout cas,
il y en a qui disaient que Paris allait avoir du mal, même à se qualifier. Et finalement, en fait, franchement, à part la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, où il y a eu une petite tempête sur le but parisien, mais sinon, le Paris Saint-Germain a largement maîtrisé son match avec un Neymar masterclass encore
vrai,
une
pour
fois.
Pour le coup, je pense que là, on est tombé sur la pire équipe de Belgrade depuis le début de la phase de poule.
Bah, clairement,
une
après,
très belle
c'est...
équipe de Paris aussi, quand même. Hein.
Faut dire, après, voilà, faut mettre en avant la performance de Paris parce qu'on l'a, on l'a déjà dit la semaine passée, mais Belgrade, cette saison en Ligue des Champions, ils ont accroché Naples. À domicile, ils ont accroché Naples et battu Liverpool. Donc, ils n'étaient pas faciles à prendre.
Et alors, pour rejoindre sur ton idée, moi, je trouve que Paris, sur la lancée de leur match à domicile face aux Reds de Liverpool, donc c'est une très bonne continuité. Voilà, comme quand tu as dit, il y avait de l'ambiance en Serbie, super tifo. Et franchement, je tiens à féliciter au moins les supporters serbes. Mais Paris mérite.
Même si
sur le
troisième but, je sais plus qui met le troisième but pour Paris.
C'est Marquinhos.
Marquinhos, ça met une grosse douche froide dans le stade.
Parce que comme j'ai dit, il y avait une grosse tempête sur le but parisien quand même en deuxième mi-temps. À un moment, c'était un peu tendu pour Paris.
Après, dans tous les cas, je pense que Belgrade peut vraiment repartir la tête haute. Ah, même s'ils finissent dernier du groupe, ils étaient dans le groupe de la mort et ils ont fait vraiment un parcours très très honorable. Donc,
de toute façon, Belgrade, c'est une équipe qui a une certaine expérience de la Coupe d'Europe. Ils ont quand même gagné, il me semble, au moins une Ligue des Champions.
Ouais, après, ça remonte. C'était à l'époque de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Ouais, mais c'est vrai que Belgrade, ça a été historiquement une grosse équipe dans les années 80-90, je pense.
1991 qui gagne la Ligue des Champions.
C'est ça, mais voilà.
Tir au but.
Contre
Marseille, j'ai dit, ouais.
Aïe.
Après, l'expert. C'est pas une équipe.
Ou Boli pleure.
Voilà, ah, Schalke vient d'être tiré. Schalke 04 vient d'être
Attention.
Tiré.
Bah, on peut pas tomber. Lyon ne peut pas tirer Schalke.
Alors, moi,
04,
j'avais senti Paris. Moi.
Mais Paris peut tirer Schalke 04.
J'avais senti Paris pour Schalke.
C'est un second pool, donc Paris peut le tirer.
Bon, on va continuer à parler un
la
peu du
La France
match,
retient son souffle.
Bah là, il va tirer la boule.
Allez, il va la tirer la boule.
Il va la tirer là, en direct.
Allez, moi, je pensais que c'est Juventus.
C'est pour Paris, j'espère.
Ah, mais on est vraiment en retard sur le téléphone, en fait, d'accord.
Pourquoi on est en retard sur le téléphone?
Parce que sur le téléphone, il vient de tirer Schalke.
Ah non, mais oui, je vous dis.
En fait.
Attention, je vais vous l'annoncer en direct. Schalke contre Manchester City.
C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, Manchester City.
Et du coup, info,
le retour de Leroy Sané dans son ancienne équipe.
Un tirage plutôt simple pour Manchester City si on prend la saison de Schalke.
Ah mais en fait là, ça s'annonce très... Il tire les boules comme pas possible. Genre ça tire de la boule dans tous les sens.
Alors ensuite, on
qui va être tiré, c'est L'Atlético.
L'adversaire à éviter
pour l'Atlético. L'Atlético de Madrid.
L'épouvantail pour Paris, là. Hein.
Oui. Et pour tout le monde, d'ailleurs.
Ouais, mais surtout. Oui,
moi,
d'accord.
Oui,
mais...
Et ils ne peuvent pas tomber sur le Real ni le Barça.
Ouais, normal.
Oui.
Mais moi, je vois bien Porto, moi.
Si c'est Paris,
ils ne peuvent pas non plus tomber sur Dortmund.
Ils ne peuvent pas tomber sur Porto, je crois. Si. Oui, ah, si, ils peuvent. Si, si, ils peuvent.
En fait, c'est simple, ils ne peuvent pas tomber sur les clubs du même pays et les clubs qui étaient dans leur poule. Pour pas qu'on les,
on
ait les faire à chaque fois.
On va continuer un peu à parler du match.
Attends.
Non, on ne peut pas parce qu'en fait, ça tire de la boule dans tous les sens. En fait, c'est l'Atlético contre la Juve.
Oh là là.
Très grosse
affiche. Très bon coup pour l'Olympique Lyonnais qui évite la Juventus Turin.
Ça sera le plus gros huitième de finale.
Je pense que c'est
normalement.
C'est une très grosse affiche.
Il y aura Liverpool encore, mais
c'est une très grosse affiche. Ah, mais
l'OL s'en tire pas trop mal.
Et Paris non plus.
Et Paris aussi.
Manchester United.
Là, c'est Paris qui sort là.
Ça, c'était Emery qui sentait que ça allait être Paris.
Ouais, ouais, je voulais que ça soit Paris là.
Manchester United.
Ça serait pas trop un mauvais tirage pour Paris d'ailleurs.
Oh là là, tous les.
Attention. Ouais. Ah, le suspense est à son comble.
Et tu m'avais dit que c'était Porto.
C'est qui la joueuse?
C'est Laura Georges.
Elle se démerde très bien avec les boules.
Merci beaucoup, Jean Beauf.
Allez, salut. C'est tout pour moi.
La sortie est par là.
D'accord, mais il n'y a plus d'émission en fait. Il n'y a plus de régie si je sors.
Eh bah, on se démarrera, c'est pas grave. Bon, qui continue les titres alors?
Comment?
J'aimerais bien parler quand même. J'aimerais bien parler quand même.
Qui compte United? Attention, dans quelques secondes, et ça va être le Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Bravo. Ouais. Bravo, Emric.
Voilà, c'est officiel. Le PSG affrontera Manchester United en huitième de finale.
C'est beau.
Ah, c'est
un très bon tirage pour Paris Saint-Germain qui...
Un très bon, je sais pas, très bon, il y a
s'en sort quand même pas
côté,
trop mal.
A...
Oui, non, mais United,
honnêtement,
il fallait surtout
United,
éviter
United,
l'Atlético Madrid, vraiment.
Alors, Tottenham vient d'être tiré.
Donc Tottenham peut être tiré par l'Olympique Lyonnais ou pas?
Non,
non pas.
Car Tottenham ont fini seconde poule, comme l'Olympique Lyonnais.
Bon, là, de toute façon, Paris a été tiré, il s'en sort plutôt
bien.
Pas mal.
Tottenham.
Ah non, Bayern. C'est pas ça que t'avais
Tottenham
dit
Bayern.
Ouais. J'avais dit Tottenham Bayern.
Ouais. Tottenham Bayern, ce serait une affiche, ce serait une affiche vraiment intéressante.
Je vois bien Bayern.
Donc si les paris de Rico se concrétisent, ce sera Dortmund pour Lyon. Hein.
Ouais.
Ça t'avais dit ça.
Parce que moi j'avais dit la Juve pour.
Attention, donc ça sera contre Borussia Dortmund.
Là c'est ça commence à être tendu pour Lyon par contre là parce qu'il reste le Bayern, le Barça, le Real.
Mais est-ce
Dortmund, c'est une huitième de finale très homogène.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire juste que là, on est parti pour avoir de super affiches en huitième de finale. Hein.
Ah, je suis très content pour le Paris Saint-Germain. Moi.
Olympique Lyonnais a été tiré.
Attention,
l'Olympique Lyonnais vient
est-ce
d'être.
Est-ce que le
Real,
ça serait pas beau?
Moi, je vois le Barça.
Moi, je sens le Real. J'ai dit
beau.
Le Real, je sens le Real.
Là, moi, je vois le Barça.
Moi, je vois le Real. Le Barça, c'est ça va être compliqué.
Le petit Bernard Lacombe.
J'ai hésité entre Dortmund et Barça.
Attendez.
Tu vois, c'est Porto.
Attention,
parlez pas tous en même temps.
Attention.
L'Olympique Lyonnais affrontera en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Ouais, c'est tendu. Hein.
Attention.
Le suspense,
c'est
mon gars.
Vraiment,
si c'est le Barça,
putain de boulot
ce sera
ventre.
Le
oh
FC
la
Barcelone.
La 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 la
le
la
FC Barcelone pour l'Olympique Lyonnais.
C'est peut-être le pire tirage possible.
On va se le dire, Antoine, c'est le pire
c'est
tirage.
C'est clairement le pire tirage.
Honnêtement, c'est le pire tirage. L'Olympique Lyonnais. L'Olympique
et
Lyonnais.
Il se déplace au retour.
Recevra.
Et on sait les clubs français au retour au Barça ce que ça donne.
Et du coup, l'AS Rome, logiquement, contre. Il reste qui?
L'Ajax n'a pas été tiré.
Contre l'Ajax, du coup, parce qu'ils ne peuvent pas tomber. Attendez.
Il me semble. Est-ce que l'AS Rome peut tirer Dortmund? Ah non, Dortmund a déjà été tiré.
Il reste l'Ajax. Il reste Porto aussi.
Ouais. Ah, il reste Porto.
Et Bayern.
Et le Real.
L'AS Rome, ça sera contre Porto. Oh,
du coup, ça nous fait un choc.
Oh, là.
Attendez.
Bayern-Real, les gars. Oh.
Mais ils n'ont pas terminé. Non, ils ont terminé.
Bayern-Real, là, il reste.
C'est Bayern-Real.
Bayern-Real, là, le 8 de dernier. Oh.
Mais les deux ont terminé premier.
Non.
Si. Non, il reste qui là?
Non, c'est il en reste.
Attendez, c'est en train de se faire.
C'est les deux équipes.
Non, mais là, il en reste, Emery.
Non.
Ajax.
Ah,
il reste l'Ajax.
Ajax.
Donc
là,
je vois
Real, ça.
Le Real, je sens. Ouais.
Bah, c'est obligé. Le Bayern était dans le groupe de l'Ajax.
Ah, bah voilà. Bah, donc voilà. On l'a. Ah,
ouais. Bon, Ajax-Real, normalement.
Oui, ça peut même finir en petite fessée, ça. Je pense.
Attention quand même à la
attention,
forme.
Attention,
ouais,
le Real en ce moment.
Voilà. Ajax-Real. Donc, après, non, mais l'Ajax, c'est une équipe dangereuse.
Donc c'est qui le Bayern?
Honnêtement, je pense.
Je me rappelle plus, c'est qui?
C'est qui le dernier?
principal, c'est ce qu'a... Non.
Non.
Liverpool.
Oh là 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 là.
Liverpool, ton équipe.
Liverpool, Bayern Munich.
Les gars, est-ce qu'on peut dire que les huitièmes de finale, c'est magnifique?
Bon, bah là, le tirage est terminé, là.
On va débriefer tout ça.
Donc, on va débriefer un peu.
On finit quand même sur, peut-être sur Lyon et sur Paris, non?
Ouais. Bah, non, mais déjà, la transition logique. Voilà, on peut revenir sur la qualification et après parler tranquillement des huitièmes.
Bon, après, je pense qu'on a tout dit sur la qualif de Paris. Voilà, ils ont
fait lui, il est pressé d'en finir, là. Ça.
Non, mais ils ont fait une grosse perf, voilà. De toute façon, ils se devaient de faire quelque chose. Ça aurait été la pire humiliation possible de... pour Paris de descendre en Europa League. Donc c'est cruel pour Naples aussi qui a fait une très bonne phase de poule et qui au final est le perdant du groupe.
Ouais, de toute façon, entre Paris, Liverpool et Naples, il y allait forcément en avoir un. Donc au final, c'est Naples.
Ce qui me va très bien.
Ouais mais c'est cruel, ça reste cruel.
Mais c'est vrai que c'est cruel parce que tu regardes leur total de points dans l'intégralité des groupes, ils auraient été au minimum dans les deux premiers quoi.
Non mais c'est donc surtout tu regardes le parcours de Naples dans le groupe et Naples était presque en position favorite presque
oui,
à un moment
là, oui, non, mais largement même jusqu'au dernier c'était... moment voilà on pensait qu'ils pouvaient aller les chercher bon
il
bah
restait deux matchs si Paris
honnêtement après la victoire de Naples contre Liverpool je pensais vraiment qu'ils finiraient dans les deux premiers et ça a été vraiment renforcé par leur performance à l'aller contre le PSG.
Après, Naples peut avoir...
Je les voyais vraiment très, très solides à ce moment-là.
Naples peut avoir des regrets, notamment sur deux matchs. Sur Belgrade, où ils n'ont pas su gagner alors qu'ils avaient moult occasions. Et notamment sur Paris Saint-Germain avec ce coup de sort de Di Maria à la dernière...
Le problème de Naples, c'est qu'il manque de vrais finisseurs, en fait. Il y a beaucoup de créateurs avec Insigne, Mertens, tout ça. Mais c'est vrai que niveau...
Bah après, t'as Milic aussi. Milic qui est un très bon finisseur.
Il n'est pas au niveau espéré depuis qu'il est arrivé à Naples.
Qui a marqué un très beau but weekend d'ailleurs.
Oui. Et à la 91e d'ailleurs. Il a vraiment débloqué le match pour Naples contre Cagliari. Ils étaient sur la pelouse de Cagliari. C'était un match piège. Donc voilà. Après, peut-être refaire un petit topo du coup sur les huitièmes de finale. Donc on a Schalke, Manchester City... Atlético Madrid, Juventus, Manchester United contre le PSG, Tottenham, Borussia Dortmund, Lyon, FC Barcelone, AS Roma, FC Porto, Ajax Amsterdam, Real Madrid et Liverpool, Bayern Munich.
Des gros gros
chocs.
On va se régaler les gars, on va se régaler.
Pour le coup, Lyon a vraiment le pire tirage possible. Et ça va être compliqué, mais bon, on verra bien. Surtout qu'on se déplace au Camp Nou au retour.
Au retour, exactement.
Donc voilà. Paris s'en sort plutôt pas mal.
Paris recevra au retour en plus, du coup. Donc, c'est plutôt pas mal.
Donc, Paris s'en sort beaucoup mieux.
Après, à voir, parce que c'est vrai que Manchester, ils sont loin d'être au mieux, mais ça reste une équipe très, très dure à manœuvrer et qui est capable, dans les grands matchs, qui est capable de faire des coups. On l'a vu en phase de poule avec la Juve. Mourinho, il peut sortir un petit bus de derrière les fagots et arracher une victoire à l'arraché justement.
Je trouve que Paris ils peuvent passer parce que moi je trouve que
après honnêtement c'est abordable c'est sûr.
Ah oui, mais c'est beaucoup plus abordable pour Paris que pour Lyon.
Ils jouaient en Angleterre hein, contre Chelsea, ils passaient hein, en quart de finale. Quand ils tombaient contre Chelsea en huitième de finale, ils passaient.
Quentin, supporter du PSG, dis-nous ce que tu ressens. Est-ce que United c'est un bon tirage pour Paris?
Alors honnêtement, comme tu l'as dit, faut se méfier du nom. C'est une grosse équipe quand même. À Old Trafford, faut les jouer et tout. Mais honnêtement, c'était vraiment l'Atlético Madrid qu'il fallait éviter à tout prix.
Et
là,
même,
United, je les ai vus jouer ce week-end.
Même c'était jouable pour Paris. Hein.
Je les ai vus jouer ce week-end contre Liverpool.
Après, il faut voir à quelle composition ils sont allés à Liverpool. Hein.
Ah, mais même.
Sont allés avec Lingard et tout, avec Dalot.
Oui, non, mais d'accord, mais ils n'ont pas beaucoup mieux.
Après ça, je veux dire, c'est pas une question de. Par exemple, hier, on était au stade avec Antoine, pour le coup, t'as Monaco qui a 14 ou 13 joueurs sur la liste des blessés. Là, pour la compo contre Liverpool, Mourinho peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. C'est lui qui fait des choix absolument bizarres, pour pas dire incompréhensibles parfois.
Du coup, ça nous ramène au cas de Pogba, justement, qui était encore sur le banc contre Liverpool. Ça fait partie des choix pleinement incompréhensible de José Mourinho.
Mais je crois pas que ça soit sportif. Je pense pas que ça soit sportif.
Il va partir,
non, je pense pas.
Non, mais c'est clairement assumé. Hein. À ce stade-là, c'est clairement assumé que Pogba sur le banc, c'est pas du sportif.
Il y a certaines rumeurs ce week-end qui faisaient état d'un prêt de Pogba au Paris Saint-Germain. Alors, j'y crois pas trop.
Alors ça, par contre, je sais pas si ce serait la meilleure décision de sa carrière.
Après, honnêtement, Pogba, je le vois pas faire de vieux os à Manchester United, non. Dans le sens où je pense qu'il partira cet été, mais cet hiver, ça me semble inimaginable.
Il partira cet été, mais il doit pas aller à Paris Saint-Germain pour moi, en tout cas.
Pour finir de répondre à Gianni, c'est quand même une affiche très alléchante. Moi, j'ai hâte, mais je me fais pas du tout de soucis pour Paris. J'ai vraiment aucun doute. Ils vont passer.
Et justement, vraiment. D'où ma question. Donc là, on a vu que Lyon tire le FC Barcelone. Donc c'est un tirage très très difficile.
Bah, c'est l'opposé, quoi.
Donc est-ce que vous pensez que quand même Lyon a une chance de s'en sortir?
Alors Antoine, je suis désolé.
Alors t'es pour moi,
supporter de Lyon, mais ils n'ont aucune chance. Je suis désolé, ils ont aucune chance.
Alors moi, j'ai pas envie de les enterrer tout de suite. Moi, je pense que Lyon. Ils seront pas catastrophiques face au FC Barcelone. Parce que lors des grands matchs, ils ont toujours
ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, après, voilà, quand Lyon... on est tombé sur City, tout le monde disait qu'on allait se faire squash. Exactement. Nous, les premiers, on pensait qu'on allait se faire squash. Mais on a tapé Manchester City, on est une des seules équipes en Europe à l'avoir fait.
C'est défensivement.
Tu peux même le rapporter en Ligue 1. En Ligue 1, dans les grands matchs, contre le PSG, on s'en prend 5. C'est vraiment pas révélateur de la physionomie. On écrase Marseille. Et oui, en Ligue des Champions, on a eu de très très bonnes performances contre Manchester City.
Mais là, honnêtement, je pense que.
Je veux dire, c'est là on parle du Barça, quoi. Le Barça avec toute la mystique, toute l'aura qu'il y a autour.
Mais
honnêtement,
j'aurais préféré limite tomber sur le Real de Madrid que sur le FC Barcelone.
Comme je disais à Antoine en début d'émission, c'est vrai que Lyon, ils sont pas habitués à faire de mauvaises prestations en Ligue des Champions.
On se rappelle de la Juve.
Ils sont jamais ridicules et tout. Et alors. Je pense pas qu'ils vont être catastrophiques.
Ces dernières années, il y a quand même eu une ou deux fois où on était assez dégueulasse quand même.
Pas catastrophe. En Ligue des Champions, tu te rappelles du match contre la Juventus?
Non, mais vous parlez contre les grosses équipes. Moi, je parle en général. Je vous rappelle qu'on a fini dernier d'un groupe avec la Gantoise, il n'y a pas si longtemps. Faut se rappeler de tout quand même.
Oui, non, mais c'est sûr. Mais là.
Si vous parlez contre les grosses équipes, ok. Ok.
Parce que justement, Lyon est connu pour faire des grands matchs contre les gros. Il y a des matchs à chier contre les petites équipes.
Non, mais après,
on l'a vu contre Rennes, on prend 2-0.
Non, mais après, cet argument est pertinent. Je comprends, mais là, on parle du FC Barcelone. On parle de Lionel Messi, qui est juste stratosphérique en ce moment. Il marche sur l'eau. Ousmane Dembélé est pas loin de marcher sur l'eau non plus. Toute cette équipe de Barcelone, elle tourne tellement bien. Et honnêtement... C'est du 5% là.
Il faudra vraiment aligner une défense à 5 là.
Par contre là, tu vois, pour le coup, en parlant de la défense,
et sans dire que on va au Camp Nou avec Marcelo en défense centrale normalement.
Personnellement, je suis Jean-Michel Aulas. Je vois qu'on tire le FC Barcelone. Cet hiver, je vais chercher un milieu def et un défenseur central.
Et tu lâches l'argent, quoi. Tu lâches l'argent.
Oui. Non mais t'as pas le choix, t'as juste pas le choix. Mais d'ailleurs, on en parlait avec Antoine hier, c'est que. On voit souvent des noms qui flottent, c'est le mercato, c'est les rumeurs, à chaque fois qu'il y a un nom un peu huppé qui ressort, on nous dit l'OL n'a pas l'argent, mais à quel moment un club du standing et du budget de l'OL peut pas aller poser 30 ou 35 millions sur un défenseur central? Je veux dire, tu peux pas me dire qu'ils ont pas l'argent parce que c'est pas vrai.
Il part à la CAN en plus, il y aura une place là.
Qui?
Morel.
Morel, oui.
Ah oui. Donc, ouais. C'est pas comme si
on l'avait oublié, tiens.
mais là, ce que je veux dire, c'est que on peut clairement pas aller au Camp Nou avec Marcelo. C'est pas possible. On l'a encore vu hier.
C'était une totale domination de l'Olympique Lyonnais et ils trouvaient le moyen
de rater. Même quand t'es en pleine domination, que t'as, je sais pas, les 70% de possession, que tu fais la passe dans ton camp, ils trouvent le moyen de faire de la merde. Ils trouvent le moyen de faire des relances complètement à chier qui relancent Monaco. Bon, pour le coup, hier, vu l'état de Monaco, ça a pas
ça a été sans conséquence. Ouais,
mais contre le Barça, tu perds la balle comme ça, c'est fini. Hein,
ouais, mais clairement, tu le fais une fois et il faut seulement une erreur de genre pour que ça soit fatal.
Par contre, je pense qu'on est tous d'accord, même si Quentin n'est pas supporter de Lyon, je pense qu'on va tous prendre les places là.
On va tous prendre les places, j'ai envie de te dire, faut voir les prix quoi.
Ouais, mais après, moi je pense que je vais pas louper l'occasion d'aller voir jouer Lionel Messi. Hein.
Non, mais pour. Pour revenir au match
Louis Suarez, n'importe qui.
Pour revenir au match en lui-même, là, vous parlez de la défense et tout. Mais les gars, en fait, va falloir marquer aussi. Et tu peux pas te permettre de louper plein d'occasions.
Ça, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, je t'avoue, parce que on a des joueurs qui sont capables de marquer contre les gros. On l'a vu. On a même Fils de Paille, on a Nabil Fekir qui est capable de marquer contre les gros. On a même Moussa Dembélé. C'est pas l'attaque qui m'inquiète le plus, honnêtement.
Ça m'inquiète un peu, moi. Il y a beaucoup de
après, moi, ce qui m'inquiète dans l'attaque, c'est notre manque de réalisme. Le manque de réalisme chronique de nos attaquants, ça, dans un match comme ça,
mais la défense
contre le FC Barcelone, je pense que l'association Memphis Depay et Fekir, déjà, elle doit être bien solide là.
Oui.
Cette cohésion là, il faudra l'assurer.
Attendez,
là,
je pense que Quentin veut dire quelque chose. Oui.
Mais les gars.
Quoi?
Non, mais j'avais même pas fini ma phrase.
Tu l'avais pas commencé en fait.
Si, j'ai dit vraiment, vous inquiétez pour la défense et tout, mais le manque de réalisme devant les buts de Lyon, même contre les petites équipes et tout, c'est inquiétant, mais là c'est le Barça. T'en auras pas 30 000 des occasions.
Va falloir. Après, moi je trouve que vous surestimez un peu la défense du Barça. Hein. C'est pas non plus un truc de fou. Hein.
Après, piquer l'anglais, ça tourne plutôt très très
piquer,
bien.
Piquer, moi je trouve ça pas exceptionnel du tout. Hein. L'anglais,
mais
ok.
En fait,
leurs latéraux,
oui,
ok.
Mais
ouais, il faudra bloquer les couloirs.
Dire,
hein.
Le truc,
c'est Barcelone, on bloque les couloirs.
D'accord, mais je veux dire. Tu dis ça comme si il allait avoir beaucoup de situations en 2 contre 2 ou en 1 contre 1 face à ces mecs. Je veux dire, le Barça, c'est un bloc, quoi. Déjà,
il
faut passer leur milieu avant de...
C'est plus le milieu et l'attaque qui m'impressionne que la défense.
Ouais,
parce que Busquets, ce milieu de terrain, Rakitic...
Non, mais bon, après, bien sûr que si tu prends par là, oui. Est-ce que Memphis peut fumer Clément Langlais en 1 contre 1? Bah oui, mais je veux dire, il faut encore avoir les situations, tu vois.
Et juste Oumtiti, il est blessé jusqu'à quand?
Ça va être très compliqué pour Oumtiti parce que l'anglais, c'est très bien installé.
C'est dommage, j'aurais bien vu le retour de Oumtiti.
Ça aurait été sympa. Ouais,
moi, j'ai une question pour les Lyonnais là, qui sont sur la table. Là.
On n'est pas sûr, mais presque.
Autour de la table. On met qui
Déclaration de Gérard Rouillet.
Ouais, mais
il n'y en a pas le son. Donc,
voilà, merci Antoine.
On met qui? Cornet ou bien Traoré?
Cornet.
Honnêtement,
Cornet, vu
ce qu'il a montré en plus sur la double confrontation contre Man City, pour moi, rien que pour ça, il a mérité sa place contre le Barça.
Alors que Traoré n'a rien fait de...
Traoré a été l'homme du match pour l'Olympico, qui a été le troisième plus gros match de Lyon cette saison, peut-être, je pense, vu le contexte, vu la période
sûrement,
à laquelle ça arrivait. Mais... Traoré est capable de bonnes choses, mais c'est vraiment son irrégularité qui fait que je le mettrais sur le banc pour un match comme ça. Après, je suis pas Genesio.
Moi, j'aurais bien aimé voir Moussa Dembélé aussi, mais c'est vrai que Cornet, pour le coup, pour ce qu'il nous a apporté contre City, et on se rappelle aussi du match qu'il avait fait en Espagne contre Valence,
le truc avec Moussa Dembélé, c'est que si là, la configuration, c'est de jouer avec une seule pointe, Memphis, quoi.
Ouais.
Ça c'est réservé pour Memphis, quoi.
Ouais, mais exactement. Moi je pense qu'il faudrait tester le système avec deux pointes, c'est fait qu'il rend 10.
Ça marchait pas mal, mais pour l'instant je pense qu'on s'en est détourné. Mais après, faut voir, hein, peut-être que Genesio nous sortira quelque chose d'inédit. On se rappelle de Laurent Blanc qui l'avait fait
en 3-5-2,
en Ligue des Champions, voilà. Quentin, des bons souvenirs.
Mal fini.
Des bons souvenirs.
Un échec.
Mais
pour finir avec ce 8e. Mais j'ai vraiment très 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 peur pour la défense de Lyon.
Non, mais
parce
que
là
c'est
sacré
faible.
Calibre. Va falloir un gros Lopez contre
je m'inquiète pas pour Lopez.
Mais déjà moi le Barça j'en fais un de mes favoris, si ce n'est le favori de cette Ligue des Champions cette année avec le Real Madrid qui est
vraiment
moins bien et Lyon ils sont vraiment pas vernis.
Après voilà, c'est clair que pour
et là on pourrait vraiment parler de miracle.
C'est clair que pour
Lyon fait tomber le Barça, c'est
Ah mais là c'est plus qu'un coup de tonnerre. Là honnêtement, si Lyon fait tomber le Barça, c'est le plus gros exploit de l'histoire de Lyon devant les qualifications contre le Real.
Ça pourrait devenir un candidat au titre de Ligue des Champions s'il les élimine.
Dès les 8e de finale.
S'il les élimine,
dès les
8e. Le Barça,
Après, c'est vrai que Lyon n'est pas vernis depuis quelques années sur ces tirages. Rien qu'en Europa League, quand on a tiré l'AS Rome, quand on a tiré Villarreal, c'est vrai qu'on n'a pas les tirages les plus faciles à chaque fois. Hein. Même Paris d'ailleurs. Hein, les équipes françaises ne sont pas franchement vernies sur les tirages. Mais ouais, à voir. Mais voilà, c'est comme je disais, si j'étais Aulas, je serais clairement allé chercher un défenseur central cet hiver.
Et t'as des idées, toi?
Aller chercher Ruben Dias par exemple.
Parce que
Antoine
moi,
sait que je milite pour un nom, Nathan Ake, le jeune défenseur de Bournemouth.
Moi je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il a pas forcément le niveau Ligue des Champions, mais Diego Carlos de Nantes, moi j'aime beaucoup.
Je suis désolé, non.
De toute façon, tout est plus solide que Marcelo, de toute façon.
Oui, non, mais après je veux dire. Non, mais je veux
Pourquoi
dire,
pas Pablo on... Pablo de Bordeaux.
On peut débattre et des bons défenseurs centrales accessibles, entre guillemets, accessibles, centraux, pardon. C'est vrai. Des bons défenseurs centrales.
Centraux.
Central avec un S, pardon.
C'est des Bref. Femmes alors.
Oui, d'accord. Bon, les défenseurs accessibles entre guillemets pour Lyon, il y en a beaucoup, mais le truc c'est que voilà, tu vas chercher les gars dont on parle, c'est 30-35 millions. Du coup, après quand on te demande non mais après quand on te demande d'aligner la somme, faut pas bégayer. Même Pablo, je pense que c'est le tarif à peu près vu les équipes qui le suivent actuellement,
45.
45,
t'as tu vu la stat,
bah, je sais pas, il y a le Barça qui est dessus, il y a Manchester United.
4 victoires, 4 défaites hein, pour
Lyon. Non, mais attendez, vous avez vu combien Lyon a brassé là pour après la phase des poules là, 31,5 millions d'euros. Donc me dis pas que tu trouves pas un défenseur central à ce
prix-là. Après, je veux dire, la stratégie, je pense qu'on s'en doute un peu tous, c'est que Aulas cherche à rentabiliser le stade. C'est un investissement hors norme et je peux le comprendre, mais à côté, c'est vrai qu'on doit rester compétitif. C'est un équilibre difficile à trouver, mais je veux dire, ça fait mal au cœur quand on dit qu'on n'a pas le budget pour aller chercher tel ou tel gars, alors que forcément, en fait, on le sait que si.
En tout cas, pour finir sur ces huitièmes, je pense qu'en tout cas, ça fait, pour le symbole, ça fait plaisir de voir Lyon à nouveau face à des cadors européens. Je pense que voilà.
Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur les grosses affiches comme Liverpool-Bayern ou alors Atlético-Juventus quand même, on va se régaler.
Très grosses affiches, même Tottenham-Borussia-Dortmund qui va être une affiche
peut-être le plus homogène.
Très intéressant. Honnêtement, les deux confrontations les moins indécises, ça va être Schalke-Manchester City et Ajax-Real Madrid. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais tout le reste, c'est très intéressant, très ouvert. Même Rome contre Porto, c'est une affiche très homogène.
Peut-être la moins alléchante,
mais très homogène.
Juventus, Atlético.
En tout cas, ouais, on a des beaux huitièmes de finale.
Mais alors, Atlético Madrid, Juventus, vous voyez qui?
Juventus.
Moi, je vois la Juventus comme ma favori avec le Barça aussi.
Mais ce sera très tactique.
Moi, je vois même la Juventus comme le favori, clairement.
Bah, pour beaucoup. Après, honnêtement, ça va peut-être faire un peu footix, peut-être un peu effet de mode. Mais t'enlèves Cristiano, je t'aurais dit l'Atlético, je pense. Mais l'effet Cristiano Ronaldo fait que la Juve, ça va vraiment être très très difficile à chercher cette
année. Ça serait quand même assez frustrant pour Buffon qui a quitté la Juve l'été dernier. Quoi. Vrai.
Après, c'était pas la même équipe autour de lui. Hein. Bon, c'était sensiblement la même équipe, mais il y a eu des ajouts.
Là, on est en train de voir toutes les actions du Barça en Ligue des Champions, ça fait assez peur.
Contre Tottenham, ouais.
Donc, voilà. Mais écoute, on va voir. Et du coup, est-ce qu'on a les dates des huitièmes de finale ou...
Alors, j'étais en train de les chercher justement.
C'est en février,
c'est sûr. Je te dis ça dès que je les ai, mon loulou, d'accord ?
Ça marche.
Et Liverpool-Bayern ?
Alors, Liverpool-Bayern, c'est peut-être le match le plus indécis pour moi.
C'est le plus gros, je pense que c'est le plus gros.
Juve-Atlético, c'est pas mal.
Pour moi, c'est Liverpool-Bayern.
Après, Liverpool reste un des finalistes de
l'édition dernière. De l'édition 2018.
Donc, oui.
Tottenham-Dortmund, c'est pas mal parce que ça va aller vite. Hein,
c'est sûrement le match le plus homogène en fait. Ouais. Un des plus homogènes.
De quoi, Liverpool-Bayern ?
Non, Tottenham-Dortmund.
Ah bah, Liverpool-Bayern, tu vois qui devant ? Moi je vois Liverpool quand même.
Je pense Liverpool aussi.
À l'extérieur, ils sont pas bons.
Qui, Liverpool ?
Ouais, 3 défaites en plus.
Bah, tu te rappelles que l'année dernière, ils ont gagné à Manchester City quand même. Hein, faut le faire.
Ouais, et puis là, ils marchent sur la première ligue. Donc,
Mais alors, par contre, Tottenham-Dortmund, je vois vraiment pas qui peut
gagner.
J'ai peut-être une petite préférence pour Dortmund mais honnêtement. Alors voilà, donc les huitièmes commencent le 12 février.
Ok.
Le 12 février.
Eh ben, on prendra les places avec plaisir.
Alors. Bah, Aulas va prendre notre argent avec plaisir.
On sait quoi commander pour Noël.
90 euros la place minimum.
Bah, ouais, c'est
90, oh, pas non plus. Même pas, non. Je pense pas.
Alors, si vous voulez même plus de précision, alors les 8e, c'est le 12-13 février et le 19 et 20 février.
D'accord. Voilà. Heureusement que c'est pas le 14.
Pour être très très complet, dans un souci de sérieux journalistique, toujours.
Et j'ai vraiment
on a la conférence de presse de Monsieur Genesio.
Mais ça, toujours sans son.
Mais ça, c'est une conférence de... C'est
oui, pas mais assez... toujours sans son, mais...
voilà. C'est pas aujourd'hui, ça.
J'ai envie de dire, est-ce que le son de notre douce voix ne suffit pas?
Effectivement.
Je pense.
Mais c'était beau.
Si on peut trouver aussi les réactions, genre... Si tu peux nous trouver les réactions de Jean-Mimi ou...
De Nasser.
Écoute, je suis...
De Nasser
aussi.
Y a Gérard Rouillet qui s'exprime, si vous voulez.
Oui, mais ça, on n'avait pas le son.
Juste, et je pense que... souvent c'est une équipe qui dans les grandes circonstances et contre des adversaires probablement plus prestigieux et plus forts, eh bien, elle a cette faculté du moins d'élever son niveau de jeu et puis de se transcender et quelquefois d'obtenir de très bons résultats. Notamment, on a obtenu 4 points sur 6 contre Manchester City.
Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait clairement.
Voilà. Il y a le retour de Samuel Umtiti, il y a Dembélé qui joue, bon, qui n'était
pas. Ah, donc
pas
peut-être Umtiti présent.
Français. Il y a beaucoup de choses. Et Messi.
Et Messi.
Et Messi surtout, aussi.
C'est surtout Messi. J'ai l'impression d'être en forme.
Benoît Genesio disait l'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Quand on tire Barça, on se dit que cet objectif est
réalisable. Alors, l'objectif.
Bah, tout pour tous les adversaires, c'est, je pense que je dirais que les 8 équipes, bon, hormis les Espagnols, mais les 8 équipes qui jouaient Barcelone, je vous dirais que. Au départ, sur le papier, on pense qu'on n'a pas beaucoup de chance, mais après, sur le terrain, on pense que vraiment, il faut défendre notre crânement, notre chance et jouer notre atout, quoi. Moi, je crois qu'on a une chance.
Ah ouais,
il est optimiste. Bah, en même
temps, il va pas dire, ouais, on va se faire
voilà, unique, voilà. Dire ça, mais...
obligé d'être optimiste. Mais...
Non, mais après, ouh, il a pas tort dans ce qu'il dit, c'est ce qu'on disait aussi.
Non, mais c'est ce qu'on disait, quand Lyon a prouvé qu'ils pouvaient élever leur niveau de jeu, mais là... honnêtement, Manchester City font partie des favoris, c'est sûr.
Mais le Barça, c'est encore un cran au-dessus.
En tout cas, je serais bien curieux de voir la prestation de Aouar et Ndombele.
En tout cas, après, pourquoi on trouve que le Barça c'est au-dessus de City ? C'est même pas tellement une question de niveau.
Je veux dire que le Barça c'est une entité. C'est l'aura, c'est la mystique qu'il y a autour du Barça et de Lionel Messi. Et en plus, après, je veux dire, le Barça c'est pas non plus une équipe qui est immunisée de tout. Ces dernières saisons,
si,
ils ont.
Arbitre, quand même.
Ouais, alors oula.
Dis un supporter du Paris Saint-Germain.
Oui,
objectivement, bien sûr.
Non, mais je veux dire, ils sont pas immunisés de tout. Ces dernières saisons, on les a déjà vus un peu moins bien. Mais là, cette année, pour le coup, ils sont vraiment dans une très très bonne dynamique.
Là, tu vois, je t'aurais dit encore, on reçoit au retour.
Il y a Fred Hermel qui s'exprime sur RMC, mais je pense qu'on s'en fout un peu.
Si on reçoit au retour, là, ça aurait été. J'aurais été peut-être plus optimiste. Mais là, en plus, au retour, on va au Camp Nou. On a vu comment ça s'est passé pour Paris. Voilà, c'est pas simple d'aller conserver un score.
La remontada.
Ah, désolé, Quentin, mais
non,
c'est vrai.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Mais c'est pas possible d'aller de conserver un score là-bas, c'est très compliqué.
Mais Quentin, dis-nous, est-ce qu'il y avait péno du coup ?
Allez, suivant.
Et il est où le pressing sur Sergio Roberto ?
Allez, c'est bon, suivant. Allez, t'as regardé le match ou pas ?
Oui, bah évidemment. Voilà. J'aurais pas pu
l'arbitre,
le presser.
T'as regardé le match ? Alors, on dirait qu'on parle d'un match obscur, on parle juste du match le plus emblématique de la décennie, mais...
C'est pas que l'arbitre, je suis désolé.
En grande partie l'arbitre, en grande partie.
Bon, est-ce qu'on clôt sur ces huitièmes ?
Bah écoute, on est plutôt pas mal niveau Ligue des Champions, je pense. Donc, peut-être un dernier mot sur... en fait, on va peut-être faire un dernier tour de table sur les clubs français, parce que tous les qualifiés, ce serait un peu trop long, mais...
Savoir si en gros est-ce qu'ils vont passer ou pas.
Voilà, donc tu me donnes les deux noms du qualifié pour les deux confrontations club français. Quentin ?
Alors Paris contre United.
Attention à ce que tu dis.
Et je suis désolé, mais le Barça, mais vraiment aussi sans hésitation.
Tu peux sortir par là.
Je suis désolé, les gars.
Emric ?
Je vais laisser parler Antoine avant parce que j'aimerais m'exprimer après.
D'accord.
Ah d'accord, il veut vraiment boucler le truc.
Il veut vraiment le meilleur pour la fin.
La cerise martiniquaise sur le gâteau, quoi.
Bah, si tu veux. Je pense que Paris va se qualifier sans souci. Après, j'aurais envie de dire Lyon, mais malheureusement, je pense que voilà, le Barça va se qualifier. Voilà, c'est tout.
Donc c'est à moi ou...
Oui, oui.
Bien sûr. Fais-toi plaisir, beau gosse.
Donc en fait, moi, j'ai pas forcément envie de donner des pronostics parce que bon, un mois, faut attendre un mois encore. Et par contre, ce que j'aimerais voir et revoir, c'est les clubs français, Paris, Lyon, en mode Champions League, c'est-à-dire la motivation, c'est-à-dire un mental d'acier. Voilà, même si on marque pas un but, on n'encaisse pas, tu vois. On fait le dos rond, voilà. On bloque, on serre. Et
après,
tant qu'on peut être clinique devant le but, eh ben, on marque.
Ce que je me dis, c'est qu'au final, un club comme Séville a réussi à contenir le FC Barcelone. Il n'y en a pas forcément un effectif bien inférieur à celui de Séville. Donc,
non, mais après aussi, je voudrais juste relativiser sur un point. C'est qu'il ne faut pas oublier que, oui, certes, il y a les deux doubles confrontations contre Manchester City, mais il ne faut pas oublier qu'on se qualifie en ayant fait 5 nuls, hein, en remportant qu'un seul match et... Sous les yeux, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais de tous les qualifiés pour les huitièmes, on est le club qui a le plus petit coefficient UEFA, là, actuellement. Plus petit que celui de Porto, que celui de l'Ajax, que celui de... Donc voilà.
Donc on a le petit poussé de.
C'était juste pour une petite information. Non, mais
voilà, pour boucler la boucle, ça serait plus qu'un miracle de passer. Ça serait exceptionnel. Ça serait un exploit, c'est sûr. Ça serait l'exploit de l'histoire
du. Mais écoute, franchement, j'ai envie d'y croire.
Il y a bien eu la remontada. Donc
non, mais c'est pas pareil, Emeric. C'est le Barça. Non, là, tu parles de Lyon.
Tout est possible. Tout pour dire, tout est possible. Alors là, j'y crois pas. 4-0.
Franchement, sur deux matchs, tout est possible.
Par contre, moi, je peux dire. Non, mais moi, je peux dire que par contre, si on perd d'aller 4-0, on fait pas une remontada.
Ah non.
Ça, je pense que je peux te l'affirmer après, assez confortablement.
Ça m'étonnerait assez enfin, je pense que c'est assez compliqué qu'on prenne 4-0.
Ah, moi, je serais pas choqué.
Je serais absolument pas choqué qu'on prenne une valise. Hein. Après, non, mais je veux dire, les matchs contre les équipes comme ça, c'est qui tout. Ah, juste pour correction, j'ai dit une connerie. En fait, l'Ajax a un plus petit coefficient que nous. Mais bon, on s'en fout un peu. Bref, non, mais je veux dire, les matchs contre les gros matchs comme ça, contre des équipes sur le papier très supérieures, c'est qui tout double. Soit d'entrée, tu prends le match par le bon bout et de là, tu peux bien figurer. Mais si jamais du début, tu te recroqueville, tu fais des fautes, tu concèdes trop d'occasions, je veux dire, si on prend le match comme ça, au bout de 10 minutes, on est mené et c'est sûr à 100%.
Non, mais le problème avec le Barça, c'est qu'encore, on fait un premier bon match. Mais en fait, on n'est même pas sûr d'être qualifié. Bah retour là au Camp Nou, ça va être horrible.
C'est comme disait Jenny hier, par exemple, le match contre Monaco, on a vu dès le début qu'on allait le détruire. Quoi.
Non, donc, mais il n'y avait pas match, il n'y avait absolument pas match. Et le carton rouge de Golovin, en tout début de deuxième mi-temps, c'était bouclé.
Non, mais vous pouvez enregistrer ce que je dis, mais je suis désolé. Mais
de toute façon, pas besoin de nous le dire, en fait, c'est enregistré dans tous les cas.
Non, mais retenir ce que je dis, quoi. J'y crois pas une seule seconde, vraiment.
Écoutez, on verra
il
bien.
Il nous reste plus qu'à voir. Hein.
Est-ce qu'on se fait un petit peu.
Et moi, personne me demande du coup pronostics.
C'est bon. Non, Gianni, c'est bon.
Alors, dis-nous ton pronostic, alors, t'écoute.
Lyon, Manchester United, allez, salut. Non, pour de vrai, Paris Saint-Germain et. Paris Saint-Germain et FC Barcelone.
Ouais, normal. Donc, personne ne croit ici à la qualif de
Lyon. Mais ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que Liverpool éliminera le Bayern Munich.
Et est-ce que vous croyez en une surprise dans ces huitièmes peut-être? Qui peut faire la surprise?
Honnêtement, pour moi, la plus grosse.
Real peut perdre.
L'Ajax peut-être?
Non, non.
Le Barça peut perdre?
Non, honnêtement.
Franchement, je pense pas.
Je pense que chaque Manchester City et Ajax Real, c'est les deux. Confrontations les moins indécises. Après, pour ce qui est de petites surprises, l'Atlético qui élimine la Juve, ce serait une petite surprise. Enfin, ce serait carrément une surprise de voir la Juve sortir en 8e.
Après, pour le coup, je vois pas du tout Schalke sortir Manchester City.
Voilà. Ouais, non, mais je pense que l'Atlético peut sortir la Juve.
Ah oui,
Porto.
La surprise, ce serait Lyon.
Porto qui sort l'AS Roma, c'est carrément possible, mais ce serait quand même un peu une petite surprise parce que sur le papier, l'AS Roma, c'est un nom un peu plus ronflant que le FC Porto.
Non, mais voilà, comme dit Emeric, la plus grosse surprise, ça serait Lyon.
Mais c'est même pas, ce serait même pas
non,
une
mais
surprise.
Je te parlais en fait des surprises les plus probables.
Ah, les plus probables, les plus probables. Porto contre la Roma, ouais.
On est même plus au stade des surprises avec si Lyon élimine le Barça.
Et puis vous dites surprise. L'Atletico, mais c'est pas non plus la dernière.
Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais ce serait une petite surprise dans le sens où la Juve a vraiment un effectif pléthorique.
Oui,
rien que de voir Cristiano Ronaldo sortir en 8e de finale, ce serait quelque chose de fou, quoi.
Bah, on l'a déjà vu cet été à la Coupe du Monde. Hein.
Non, mais attendez, je parle en Ligue des Champions.
United aussi contre qui gagne Paris.
Ça, c'est pas impossible. Donc, écoutez, en tout cas, c'était vraiment sympathique ce petit direct Ligue des Champions.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait un petit mot de F1? Est-ce qu'on fait le coup
On est plutôt pas mal là. On est à 38 minutes.
Écoute, on peut faire un petit tour d'horizon de F1 vite fait, non?
Allez, on peut se faire ça. Petit jingle.
Allez, c'est parti. Si ça marche.
Où est le jingle Sport Auto, putain?
Aïe.
Aïe, bon bah écoute, on va peut-être le faire sans jingle.
Tu peux
alors
le faire à la bouche ou au pire? Vroom.
Vroom. Vroom. Attends, mais je l'ai.
Pour ce moment gênant, les auditeurs.
Rendez-vous au premier virage.
Voilà, tout ça pour ça.
Donc, alors, petit tour de F1, je sens que Quentin et Emeric sont au taquet là. Vous avez bien suivi, genre, tous les coureurs, les pilotes français, etc.
Mais tout à fait.
Quentin, bah, James Harden.
Oui. James Harden MVP.
Voilà, bah. Du coup, il y a eu beaucoup. On sait que la saison de F1 s'est terminée là, il y a peu de temps. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, notamment chez les pilotes français.
Ouais, peut-être faire un petit topo.
Bon, est-ce qu'on compte Charles Leclerc comme un pilote français?
Alors, Charles Leclerc est monégasque, représente Monaco et se définit comme un monégasque.
Bon, on va le compter quand même dans les...
Un francophone, allez.
Dans les francophones.
Allez, donc, vendu. Donc, du coup, je fais peut-être un petit tour d'horizon pour introduire le sujet. Donc, en comparaison avec la saison passée, il y a seulement deux équipes qui sont restés inchangés, donc l'équipe championne en titre Mercedes avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, et il y a également l'équipe As qui n'a pas bougé, donc avec Romain Grosjean, pardon, représentant français, et Kevin Magnussen. Donc tout le reste, ça a bougé. Donc pour résumer les mouvements principaux, donc voilà, dans la mythique écurie Scuderia Ferrari, on a toujours Sébastien Vettel.
Et on a l'arrivée
de Charles Leclerc, le monégasque.
En échange avec Kimi Raikkonen.
Kimi Raikkonen, donc, qui repart à Sauber, qui est l'équipe pour laquelle il a débuté en F1. Donc, ce sera une saison très, très attendue pour Charles Leclerc.
Donc on est d'accord, chez il Ferrari. Parle là-bas en tant que deuxième pilote.
Leclerc parle là-bas en tant que deuxième pilote, après avoir la hiérarchie pourrait être bousculée cette saison.
Parce qu'on rappelle qu'il a fait des très très bons essais avec Ferrari.
Non seulement il a fait des très très bons essais, mais il sort de sa première saison en Formule 1, donc pour Sauber, qui a été tout simplement impressionnante. Il a été élu rookie de l'année. Ça a été vraiment unanime. Tout le monde a été impressionné par sa première saison en F1. Donc là, il y a de très très grosses attentes. Sur le papier, oui, deuxième pilote, mais après, je veux dire, ça dépendra de ses performances. Si jamais il s'avère que c'est le mieux placé pour décrocher le titre pour Ferrari, alors Ferrari le privilégiera par rapport à Vettel, à voir.
Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Esteban Ocon, donc, qui était à Force India et qui se retrouve sans siège pour
sans
la
siège.
Saison 2019?
Oui, pour la saison 2019. Après, j'ai lu une interview justement hier d'un membre du staff de Force India qui maintenant ne s'appellera plus Force India mais s'appellera Racing Point F1.
Oh là là, ouais.
Donc voilà. Et en fait, apparemment, Esteban Ocon, ce qui lui a porté préjudice, c'est son affiliation avec le groupe Mercedes. Il fait partie du programme junior de Mercedes. Et du coup, ça lui a porté préjudice quand justement d'autres écuries qui n'avaient rien à voir avec Mercedes étaient intéressées par lui. Du coup, cette saison, Esteban Ocon, il sera pilote réserve, troisième pilote chez Mercedes. Voilà.
Bon,
donc,
du coup,
pour,
il s'en sort quand même pas trop mal.
Ça va. Et il y a une forte chance qu'il passe deuxième pilote pour la saison prochaine, la saison 2020. Sinon, pour tout ce qui est des autres Français, donc voilà, on a Romain Grosjean chez Haas et il y a Pierre Gasly. Donc chez Red Bull
qui a quitté Toro Rosso pour signer à Red Bull,
hein. Voilà, Red Bull qui est une des trois grosses équipes, donc là-bas il sera derrière Max Verstappen et voilà. Et du coup, donc chez Red Bull, on a du mouvement aussi puisque Pierre Gasly prend la place de Daniel Ricciardo, donc qui va quitter Red Bull pour aller chez l'écurie française de Renault.
Voilà. Donc un bon coup pour Renault quand même.
Un très bon coup pour Renault. Daniel Ricciardo, multiple vainqueur de course, multiple podium. Un très très bon coureur qui cette saison a vu sa saison justement gâchée par les problèmes techniques. Donc voilà.
Donc voilà, on a quand même plutôt pas mal d'espoir niveau pilote français.
Voilà. Bah, je peux te renvoyer peut-être la balle, Antoine. C'est quoi toi ton plus gros espoir français ou francophone? On va compter Charles Leclerc pour cette saison en F1.
Bah, moi, si on parle de francophone, c'est vrai que Charles Leclerc, quand même, je pense que c'est peut-être le plus gros potentiel de tous ceux qu'on a cités. Là, il arrive à Ferrari, il va sûrement se faire sa place. Donc, à voir. Après, si on parle des Français purs, j'attends de voir ce que va faire Esteban Ocon.
Esteban Ocon, du coup, tu le verras pas piloter, à moins d'une blessure de soit Hamilton, soit Valtteri Bottas, mais tu le verras pas piloter la
saison. Je l'attends sur le long terme parce qu'il avait fait des belles choses avec Force India.
Après, donc, Ocon, apparemment, ce qui est bien pour lui, c'est qu'apparemment, il manquait pas de prétendant. Il était vraiment très courtisé, mais c'est son affiliation avec Mercedes qui a un peu fait que voilà, là il se retrouve troisième pilote chez eux. Mais bon, c'est pas une mauvaise place
non,
au final, j'ai envie de dire.
Y a pire.
Surtout que le deuxième pilote Mercedes, Valtteri Bottas, il paraît un peu sur un siège éjectable pour la saison prochaine. Ça va vraiment être une saison décisive pour lui. Et si jamais il ne parvient pas à performer à haut niveau, il pourrait perdre son siège.
Puis on sait qu'entre autres, il n'a pas une relation très très ouf avec Lewis Hamilton.
Donc, c'est surtout qu'il est vraiment Hamilton est vraiment très très privilégié par rapport à Bottas, mais bon, dans un sens c'est assez logique.
Oui, parce que c'est lui qui ramène, voilà, c'est lui qui ramène la. Ouais.
Mais bon, après j'ai envie de dire, les écuries de Formule 1 doivent s'adapter par rapport aux performances des pilotes. Si Valtteri Bottas était celui qui était dans la meilleure dans les meilleures dispositions, dans la meilleure situation pour remporter le titre, je pense que Mercedes le privilégierait. Hein. Donc après, voilà, faut provoquer
Quentin,
un Rick, peu.
Un petit pronostic. Après, on n'a pas parlé de Pierre Gasly. Gasly, je ne suis pas un gros fan, mais j'attends de voir ce qu'il va donner avec Red Bull. Ça peut être... pour moi, c'est peut-être le moins bon de ceux qu'on a cités.
Alors moi, je te rejoins pas trop parce que j'ai vraiment de grosses attentes pour Pierre Gasly qui, là... Toro Rosso, en fait, Toro Rosso à Red Bull, c'est un peu l'étape logique. Parce que bon, Toro Rosso, c'est l'équipe junior de Red Bull. Donc voilà. Et Pierre Gasly, là, il aura vraiment, normalement, j'espère, une très bonne voiture. Il devrait être en disposition pour confirmer ses bonnes prestations l'année passée avec Toro Rosso. Il a notamment décroché une quatrième place. Je crois que c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan, si je ne dis pas de conneries. Je ne suis pas sûr. À vérifier. Mais il a fait de bonnes performances l'année passée. Donc derrière Verstappen, moi j'en attends pas mal.
En tout cas, on a des espoirs assez sympathiques côté français et francophone.
Juste ton pronostic pour le titre de champion l'année prochaine?
Pour moi, Hamilton va rester encore au-dessus.
Hamilton pour un sixième titre, ouais. Ce serait historique, sachant qu'Hamilton là, chasse le record de Schumacher, entre autres, et de Juan Pablo Fangio, les deux seuls à détenir le record donc de 7 titres de champion.
Comme on l'a dit dans le quiz la semaine dernière.
Exactement, et Hamilton en est à 5, donc il est plus très loin, et surtout qu'il est encore assez jeune.
Honnêtement, je vois vraiment personne au niveau d'Hamilton. Là, j'aurais peut-être dit Verstappen.
Bah après, le truc, c'est que Ferrari a vraiment une voiture très très performante l'année passée. Si on s'en base sur un point purement mécanique, leur voiture était largement aussi performante que celle de Mercedes. Mais le truc, c'est qu'il y a eu énormément d'erreurs de stratégie et d'erreurs mécaniques qui leur ont énormément porté préjudice. Donc voilà, mais bon, après, quand tu regardes leur pilote l'année prochaine, Sébastien Vettel et Charles Leclerc, c'est quand même très 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 solide. Ouais, c'est une sacrée équipe. Et Ferrari surtout, qu'ils ont vraiment faim parce que ça fait déjà de nombreuses années qu'ils n'ont pas remporté de titre en Formule 1.
Parce que je pense que Leclerc, clairement, il serait peut-être premier pilote dans n'importe quelle autre écurie, peut-être à part Mercedes. Mais je pense que n'importe quelle autre écurie, il est premier pilote sans...
Déjà l'année passée à Sauber, pour sa première saison à F1, il a marqué 39 des 50 et quelques points de son équipe. Donc voilà. Je pense que ça va un
du
peu.
Du coup, on finit sur Quentin Emery qui a un petit pronostic.
C'est Hamilton le pronostic.
Ah, Hamilton MVP. Ouais.
Dis pas James Harden.
Honnêtement, j'y connais rien, alors je dirais Hamilton.
Et les jeunes français, qui c'est qui vous plaît un petit peu?
Allez, c'est bon. C'est mon quiz.
Si je peux faire un peu mon pronostic, moi.
Grosjean, il est pas si jeune que ça, mais.
En français.
Ah, en français.
Il y a Ocon.
Ocon. Sinon, vous avez bien écouté.
Esteban Ocon. Si je peux faire un peu mon pronostic, moi, après, c'est un peu un pronostic biaisé parce que j'aime beaucoup ce pilote, mais Max Verstappen, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Bah, je sais que ça va peut-être être un peu compliqué pour le titre, mais déjà, ce qu'il arrive à réaliser à son âge, j'aimerais beaucoup, beaucoup le voir à la lutte pour le titre jusqu'à la fin. Après, c'est vrai qu'il y a Hamilton. Hamilton reste favori, mais Verstappen, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une grosse, grosse saison de sa part.
Mais écoutez, on verra bien ce que donnent nos Français. Et maintenant, on va passer au quiz.
Avant de faire le quiz, Quentin. Ça me faisait marrer, je viens de voir. Tout humblement, juste avant le tirage, Jean-Michel Aulas a quand même dit: je ne voudrais pas être à la place de celui qui tombera sur l'OL. Voilà, merci.
Est-ce qu'on peut caler un petit jingle carton, s'il vous plaît?
Carton.
Voilà.
Par contre, je précise que je pense que le président du Barça, il ne doit pas se dire là: oh, je suis vraiment dégoûté d'être tombé sur l'Olympique de Lyon.
Je pense que je vais déclarer forfait.
Je pense qu'il faut être un peu plus humble. Voilà,
c'est bon, allez, petit quiz.
Allez, le petit quiz.
Est-ce qu'on a un petit jingle quiz?
Bien sûr qu'on a un jingle.
Oui.
Voilà.
Merci beaucoup.
Écoutez, c'était plutôt pas mal. Hein. Donc, quiz, comme d'habitude, préparé par mes soins, avec toujours énormément d'amour. Ah. Mais bon, j'ai pas besoin de le préciser.
Bah si.
Bah d'accord, c'est énormément d'amour. Donc, alors, avez-vous bien suivi l'actualité sportive ce week-end ? Nickel. Première question. Donc, on était au stade avec Antoine. Toujours, bien sûr, dans un souci de sérieux journalistique, je le rappelle, pour voir la victoire écrasante de Lyon contre Monaco 3-0. À quand remontait la dernière victoire par au moins 3 buts d'écart de Lyon en Ligue 1 et contre qui ? Je précise que vous devez dire votre prénom pour répondre.
3 buts d'écart.
Oui, au moins 3 buts d'écart. Wow.
Contre Monaco, n'importe qui. Contre n'importe qui.
Non, mais à part celle contre Monaco.
Oui, non, mais d'accord.
Non, mais d'accord, mais contre Monaco ou contre n'importe qui ?
Non, n'importe contre n'importe qui en Ligue 1.
Ça ne doit pas tant remonter que ça en vrai. Putain, je sais pas. On peut, faut qu'on donne l'année,
après,
le mois.
Non, non, juste le mois, l'équipe, Quentin, l'équipe, Quentin, l'équipe, tu peux le dire.
Quentin.
Oui.
Je dirais Dijon.
Exactement.
Ah putain, point pour oui, Quentin. 3-0.
C'était le 26 septembre dernier, 3-0 avec un doublé de Moussa Dembélé, voilà, un but de Martin Terrier.
Je savais que ça remontait pas. Terrier qui avait marqué ?
Oui, le troisième but et doublé de Moussa Dembélé.
Bien vu.
Un point pour Quentin.
Il est content là, hein, putain.
Très content.
Il a, il a un sourire d'oreille à oreille, comme on dit. Alors là, ça va. Je pense que vous avez tous vu l'info. Ça va vraiment. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, rien.
Un peu d'agitation. Ça va vraiment être une question de rapidité parce que je pense que vous avez tous vu l'info, mais c'est pour ça que je vous demande vraiment.
Moi, j'ai une petite idée.
D'accord, mais je vous demande vraiment d'attendre que j'ai fini la question et de
dire. Vu, il est disqualifié déjà. Allez, suivant.
Et de dire votre prénom pour répondre. Allez, c'est parti. Qui a remporté le trophée du Golden Boy 2018 ?
Antoine, Quentin.
Antoine, oui.
Mathis Delierte.
Un point pour Antoine. Toujours à propos du Golden Boy. À quelle place a fini le Lyonnais Oussem Aouar ?
Quentin.
Oui.
Sixième.
Un point pour Quentin.
J'avais pas vu, ouais.
Ça fait deux points pour Quentin et un point pour Antoine. Alors,
il y a moins que la perruque, elle arrive là.
Alors, donc, l'Olympique Lyonnais, on l'a vu, va affronter le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est une question corsée, hein, je vous l'ai prévenu. Ouais, okay. Donc, Lyon s'est qualifié pour les 8e de finale avec un total de 8 points. Quelle est la particularité de cette performance ?
Antoine ?
Oui.
C'est l'équipe qui s'est qualifiée en faisant le plus de matchs nuls ?
Emeric.
Non, c'était pas ça. Ça a un rapport avec l'histoire de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Ah. Petit indice.
Quentin ?
Oui.
C'est le pire total de points avec lequel Lyon s'est qualifié pour les 8e de finale.
Allez, je t'accorde le point.
Bah, c'est pas...
Parce que c'est le pire total de points ex-aequo avec la saison 2011-2012 où on s'était qualifié à la différence de but face à l'Ajax Amsterdam.
Très bien. Oh, ça va. Je prends le point.
Et oui. Et juste, voilà. Donc, 8 points ou moins. On a toujours été éliminé, donc ça s'est produit en 2000-2001, 2002-2003, 2015-2016 et 2016-2017.
Ok.
Voilà. Okay. Je pensais que c'était assez sympa comme information, du coup.
C'est ma foi, très sympa.
C'est propre.
C'est informatif, je pense. Ouais. Donc, ce week-end, c'était le fameux derby d'Angleterre que Liverpool a remporté avec un doublé de...
Antoine.
Chacun.
Il n'y avait pas de points en jeu. Hein.
D'accord. Ah putain.
Ah, ouais,
voilà. Donc, à remporter avec notamment un doublé de Shaqiri. Quel était le dernier joueur à avoir inscrit un doublé pour Liverpool face à Manchester United en Premier League ?
Allez, vas-y. Emeric.
Oui.
Sturridge.
C'est faux.
Antoine.
Quentin.
Oui.
Sterling.
C'est faux.
Quentin.
Oui.
Fernando Torres.
C'est faux.
Bon bah c'est mort, vas-y.
C'est mort. Alors, c'était Steven Gerrard le 16 mars 2014 pour une victoire 3-0 de Liverpool.
Ok.
Donc, je fais juste un petit point. Donc là, on en est à Quentin 3 points, Antoine 1 seul point et Emeric 0 point. Mais pas de panique, car arrive bien sûr la question.
La golden question.
La question à 33,5 milliards. Et en plus, elle est assez corsée. Hein. Donc... hier, s'est décidé le trophée du sportif britannique de l'année. Donc, on en a parlé de Lewis Hamilton, qui malheureusement, malgré l'obtention de son 5e titre de champion du monde en F1 l'année passée, n'a pas été plébiscité par les votes. Il a fini 2e Hamilton. Quel sportif l'a devancé ?
Antoine ?
Oui.
Andy Murray ?
Faux. Andy Murray, il a fait une saison quasi blanche. Hein, donc,
ouais, bah, je sais pas, c'est ceux que je connais. Donc.
Sportif britannique, pensez. Hein. Tout sport confondu, vraiment.
Il y a moi, ils sont un rugbyman, putain.
Et non, ce n'est pas un rugbyman. Tu vois, je te donne des indices en plus.
C'est pas dans le foot, quand même.
Ah, mais attendez, je me suis trompé. Il me reste une question. Hein. C'est pas la question à 33 okay. milliards. Hein.
C'est un footeux ou pas?
Non, c'est pas un footeux. Vous connaissez aucun sportif britannique?
Non, attends, c'est pas vraiment là.
Attends, mais si, putain.
Un joueur de polo.
Pensez l'été. Une tradition estivale.
Les JO.
Quentin.
Oui.
Je dirais Thomas. Thomas Vélo.
Merde.
Thomas, tu le prononces comment, Thomas?
Putain. Si,
Allez, j'accorde le point à Quentin parce que c'était Guérin Thomas.
Ouais, j'ai dit le nom, Thomas. Excusez-moi.
Il a dit Thomas.
J'ai dit Guérin Thomas.
Bon, allez, tu sais quoi, j'accorde le point à Antoine. Allez, j'accorde le point à Antoine.
Il se fait aider depuis tout à l'heure, lui.
Ah, mais en fait, ok, j'avais pas vu, d'accord. J'avais pas vu. Y a de la... Bah, j'accorde le point à Antoine d'office alors.
Voilà, merci.
Voilà, c'était Guérin Thomas, le dernier vainqueur. Le dernier vainqueur du Tour de France qui a été élu sportif britannique de l'année.
Je voudrais dire que je me suis fait un peu voler là.
Attends, depuis tout à l'heure, il triche et après il.
Ouais. Quentin, t'es toujours en tête, t'as 3, Antoine a 2.
On peut pas lui enlever un point du coup parce que devant il s'est
non,
fait.
Non, mais t'inquiète, c'est bon. Là, c'est vraiment la aucune question, triche, c'est vraiment la question bon. À 33 milliards.
Ok.
Donc, on n'en a pas dit un mot et je pense que c'est vraiment, vraiment l'occasion de le mentionner. L'équipe de France féminine de handball.
Ah, je sais.
Emric, qu'est-ce qui s'est passé?
La France a gagné 24-21 contre les Russes et championne d'Europe.
Championne d'Europe. Déjà, bravo l'équipe de. Non, mais déjà, bravo l'équipe de France féminine de handball pour ce sacre. C'était absolument pas la question, mais yes. Je suis content. Je suis content de t'en. Donc, avant le sacre cette année, quel était le meilleur résultat de l'équipe de France de handball féminin en Coupe d'Europe?
Quentin.
Oui.
Demi-quart.
Quart de finale.
C'est faux.
Antoine.
Oui.
Troisième.
Antoine a gagné le quiz.
Ouais, oui, je savais ça.
Bah, fallait le dire, si vous savez.
J'ai dit demi.
Oui, mais fallait non, dire mais troisième.
Non, ah, ouais.
Elle, la France a gagné la petite finale à 3 reprises en 2002, 2006 et 2016. Donc, c'était une progression assez logique de le gagner, mais c'était pas facile. La finale contre les Russes a été assez accrochée. Et encore une fois, bravo à l'équipe féminine de Hand.
Voilà. Et ben, voilà. Merci, Jenny, pour ce quiz. Donc, on comptabilise les points. Ça fait 33,53 milliards de points.
En fait, ce qu'on va retenir, c'est tout simplement que t'as gagné le quiz et que Quentin a fini deuxième.
Et que la perruque se rapproche pour Emric.
Et la perruque se rapproche pour Emric.
Dangereusement. Dangereusement.
Dangereusement.
Mais, je pense
mais
que,
très rapidement.
Je pense vraiment que la perruque rose va bien lui aller. Hein.
Et bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve pas la semaine prochaine, du coup, en fait.
Car c'est les vacances scolaires.
Voilà. Oui.
Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël, bonne année,
fin d'année,
bonne santé, bonne Hanouka aussi.
Et on
surtout.
Se retrouvera peut-être pour débriefer le mercato hivernal.
À voir. Peut-être. Et parler peut-être du dossier Paul Pogba, plus en précision peut-être.
Ouais, si ça s'est pas amélioré. Ouais.
Avec son fameux prêt au Paris Saint-Germain à venir. En janvier.
Et puis on pleurera encore sur le tirage de l'Olympique Lyonnais. Et puis
voilà. Et voilà.
Et puis voilà.
Allez, salut les loulous.
Ciao.
À l'année prochaine.
Bien, bien là.
Il monte Thomas, wesh. Ah, j'essayais de lire.